Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h46, c'est le petit déjeuner politique de Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire auprès du ministère de l'Éducation nationale.
Bonjour Nathalie Elimas.
Bonjour.
On voit que la situation est parfois délicate dans les écoles en raison du Covid. Est-ce que c'est encore plus sensible dans les quartiers des zones d'éducation prioritaire ?
Alors déjà, la rentrée s'est bien passée. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire ce matin parce que ce n'était pas évident. Il y avait de l'inquiétude, les parents étaient inquiets, les professeurs pouvaient l'être aussi. Et je me suis beaucoup déplacée tout au long de la semaine de rentrée et je peux vous dire qu'elle s'est très bien passée cette semaine de rentrée.
Il y a quand même, par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a 4000 élèves qui n'ont pas remis les pieds en classe. Quoi. Et on vous dira aussi qu'il y a quelques classes
qui ferment. Il y a des élèves qui n'ont pas remis les pieds en classe, c'est pas pire que les autres années où certaines familles rentraient plus tard de vacances et finalement la rentrée s'échelonnait tout au long de la première semaine. Donc c'est pas pire. Pour revenir sur votre question, c'est pas pire non plus dans les zones d'éducation prioritaire. Et pour ce qui est de la gestion de la
crise
sanitaire...
Quand je dis pire, c'est que c'est dans la difficulté d'application du protocole, quoi. Hein, voilà.
Non, il n'y a pas de difficulté d'application du protocole dans les écoles d'éducation prioritaire ou pas dans les écoles d'éducation prioritaire. Les choses sont extrêmement claires. Il y a trois hypothèses. Ouais. L'hypothèse de référence qui est celle que nous vivons aujourd'hui, où finalement le virus circule, mais la rentrée et les enfants sont en classe normalement. Une hypothèse où le virus circule un peu plus vite, et là on est dans la situation de sortie de confinement, où on a des demi-groupes en classe, et puis dans les cas où vraiment il y a de la contamination, où la circulation est très rapide, on est dans le cas d'isolement. Ponctuel sur 14 jours ou 7 jours. Et tout ça, ce n'est pas l'éducation nationale qui en décide, c'est le couple préfet-ARS qui, au cas par cas, voit ce qu'il convient de faire. Alors le recteur intervient, c'est-à-dire l'éducation nationale, et on met en place le plan de continuité pédagogique tel qu'il a été éprouvé un peu dans la difficulté pendant le confinement, mais qui est aujourd'hui simple, clair et parfaitement maîtrisé par les professeurs.
Il y a quand même des profs qui ne sont pas convaincus par les mesures. Ils disent qu'il faudrait encore aménager peut-être les horaires, l'aération des classes, réquisitionner des locaux. Hein.
Alors, sur l'aération des classes, c'est vrai, la question m'a été posée
ce matin.
C'est complexe,
hein, c'est comme dans les entreprises,
c'est
bien sûr.
C'est complexe, et puis surtout, ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, la semaine prochaine, il va faire très chaud.
Oui.
Donc, encore une fois, les choses, finalement, je vous dis, sont assez simples. Il faut être calme et faire appel à son bon sens. S'il fait chaud dans les classes, les enfants, les jeunes qui sont masqués ont du mal à respirer, on peut tout à fait aller faire cours dehors. Il y a des cours de récré, il y a des espaces,
Dans les collèges et lycées, c'est plus complexe quand même, non ?
Dans les collèges et dans les lycées, il faudrait s'organiser un peu différemment, mais ça n'est pas infaisable.
Bon, en tout cas, pendant la période du mois de septembre. Est-ce qu'il y a des cours de soutien qui avaient été annoncés, qui se mettent en place ? Parce que je n'ai pas vu de recrutement de profs, de contractuels. Quoi.
Alors, en sortie de confinement, il y a eu un dispositif, le 2S2C, qui a permis, je vous le disais, d'accompagner les enfants quand on était en demi-groupe en classe. Pendant toute la période des vacances scolaires, il y a eu les vacances apprenantes dont vous avez entendu parler, ça a été un franc succès. Il y a eu les colos apprenantes, il y a eu l'école ouverte, et puis il y a eu les stages de réussite, juste avant la rentrée scolaire, là, justement pour aider ces jeunes qui étaient un peu dans la difficulté, qui n'avaient pas pu suivre les cours correctement, parce qu'on a aussi la question du numérique, qui est très prégnante, et qui a empêché certains enfants et jeunes d'accéder correctement à leurs cours. Donc tout ça s'est mis en place correctement. On prend le relais, là, à la rentrée, avec des évaluations diagnostiques, qui vont permettre de savoir concrètement où en sont les enfants, où en sont les élèves, et puis on prendra le relais avec le dispositif Devoirs faits qui était déjà existant.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une fracture numérique, on viendra aussi sur d'autres fractures dans notre société, mais sur le numérique, est-ce qu'il va y avoir un déploiement de matériel supplémentaire pour ces élèves ?
Oui. L'État tient à disposition des élèves du matériel informatique dans le cas, je le disais précisément, de reconfinement partiel. Ensuite, on est en train de mettre en place une expérimentation sur deux départements qui sont l'Aisne et le Val-d'Oise, qui s'appelle 100% numérique. On met à disposition 15 000 tablettes et ordinateurs pour les jeunes qui en ont le plus besoin. On équipe les professeurs primo-arrivants de matériel informatique. On dispense de la formation parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas évident, on n'est pas tous égaux devant un ordinateur. Donc pour les enseignants et pour les familles et élèves, Et enfin, on va équiper les classes, notamment de vidéoprojecteurs ou de tableaux numériques, parce que ce n'est pas le cas partout. Si ça marche, on fait l'expérimentation. Si ça marche, on fait un bilan à la fin de l'année. Ça a vocation à être généralisé.
Oui, oui. En tout cas, c'est une des mesures pour faire face au décrochage. Parce que le décrochage, il existe bien quand même, non ?
Alors, c'est une mesure qui permettra de faire face au décrochage, mais pas que.
Oui.
L'outil numérique,
vous
aujourd'hui, c'est un outil...
Vous l'estimez à combien le décrochage, là ?
Alors, ce n'est pas une estimation. Le oui. décrochage, il y a environ 6% de décrocheurs sur le territoire national.
Oui, 6% aujourd'hui. Dans des quartiers plus que d'autres ou pas, non ? Vous l'avez...
J'aime pas stigmatiser. En tout cas, les quartiers d'éducation prioritaire, vraiment,
ne méritent pas d'être stigmatisés. Non, mais il faut pas les stigmatiser.
Non, mais attendez.
Non, mais moi, je vais vous dire, en fait, si, en posant ma question, tout simplement, vous dites, il faut pas les stigmatiser.
Non.
Cela dit, bah oui, mais pourquoi il y a, à ce moment-là, une chargée de l'éducation prioritaire qui sont réservées, en fait, à ces quartiers, alors ?
Parce que dans ces quartiers,
il y a plus d'inégalités sociales, sanitaires,
et là, effectivement, la fracture numérique est plus importante.
Donc,
il y a probablement plus de décrocheurs dans ces quartiers-là. Là où je dis qu'il ne faut pas les stigmatiser, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'ambition pour ces jeunes.
Ouais.
C'est pas parce qu'on est dans un quartier prioritaire que ça va mal, qu'il y a moins de compétences, que les élèves auraient de moins bons résultats scolaires, etc. Il faut avoir de l'ambition pour ces jeunes.
Et c'est justement ce sens-là que je vous dis
qu'il ne faut pas stigmatiser. Ouais. Et c'est précisément l'objet de ma mission.
Ouais, ouais. La mission, justement, est d'éviter que ça décroche encore trop dans les mois qui viennent.
La mission est d'éviter que ça décroche encore trop. La mission est de mettre en place, de déployer le maximum de dispositifs pour lutter contre les inégalités de destin et faire en sorte que nous tenions notre promesse républicaine qui est de garantir la réussite pour tous nos élèves.
Ouais. Et quand on dit 6%, là encore une précision tout à l'heure, c'est-à-dire 6% qui ne remettent pas les pieds à l'école ?
Alors, non, ce n'est pas 6% qui ne remettent pas les pieds à l'école, c'est 6% de jeunes que l'on perd, qui vont, qui viennent. On n'est pas en rupture définitive. Et pendant la période de confinement, typiquement, on a perdu vraiment une partie des élèves qu'on a vu revenir à la rentrée.
Oui, oui, c'est ça. Alors, avec
fait, tout ça est très mouvant. Ouais. C'est aussi ce qu'il faut dire.
Ouais, ouais.
C'est pas figé.
Avec votre regard neuf, hein, Nathalie Elimas, donc sur les zones d'éducation prioritaire, puisque vous avez été nommée il y a quelques semaines, est-ce qu'il y a des adaptations en dehors des dédoublements de classe qui existent déjà en CP, en CE1, sur l'enseignement, les matières, les cours, par exemple, sur l'instruction civique qu'il faudrait mettre en place ?
Alors, vous avez parlé très justement des dédoublements de CP, CE1. Mmh. Vous avez oublié de préciser qu'on le fait aussi en grande section maintenant.
Oui, c'est
donc on est en train de l'échelonner sur trois années. Là, il y a 300 000 enfants qui bénéficient du dédoublement CPCE1 dans les zones d'éducation prioritaire. 10 000 enfants là à la rentrée en grande section et ça va être généralisé. On met l'accent sur les heures de lecture, sur le soutien, je le disais, sur devoirs faits pour aider les gamins, les jeunes, à la classe, à faire leurs devoirs. On met des heures supplémentaires, 1,5 million d'heures supplémentaires. Donc il y a quand même des moyens qui sont mis sur la table pour aider tous ces jeunes à réussir.
Oui, alors c'est vrai. Et sur des cours un peu spécifiques, parce qu'on dit, et ça ce sont des spécialistes, que l'islamisme serait en train de pénétrer l'école de la République, et notamment dès le primaire. C'est Jean-Pierre Robin qui le dit. Hein.
À l'école, on apprend des fondamentaux qui sont lire, écrire, compter, mais c'est aussi respecter autrui.
Ouais, ouais.
Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet qui est celui de la responsabilisation des élèves. Apprendre à se respecter soi-même, à respecter les autres, ça fait partie des fondamentaux à l'école aujourd'hui. Donc tout ça, c'est en place à l'école, on les accompagne
mais
en ce sens, on les
plus
forme
loin
à devenir
dans
des citoyens.
Dans l'enseignement des valeurs républicaines et de la laïcité à l'école, et notamment dès le primaire. On sait que ça se joue dès le plus jeune âge.
Tout se joue dès le plus jeune âge, mais je vous dis, ce sont des questions qui sont au cœur des apprentissages aujourd'hui. Quand je vous dis dans le respecter autrui, c'est exactement tout ça.
Oui.
Ce sont des valeurs qui sont dispensées dès le plus jeune âge à l'école, dans les quartiers d'éducation prioritaire, mais pas que d'ailleurs, parce que ça concerne
tous nos
enfants, et pour qu'ils apprennent à se respecter.
Et les enseignants sont formés en conséquence eux-mêmes aussi ?
Oui, et surtout, je veux revenir à votre question, vous avez parlé de radicalisation.
J'ai parlé d'islamisme.
Il y a un sujet aujourd'hui, il y a un dispositif qui est porté, notamment dans les zones d'éducation prioritaire, qui s'appelle les cités éducatives. Qu'est-ce que c'est la cité éducative ? C'est accompagner un enfant qui devient un jeune adulte tout au long de son parcours scolaire. Pour cela, il y a autour de lui tous les acteurs possibles. Il y a l'État, les collectivités, les élus, les associations, des médiateurs, les partenaires économiques. Et là, je reviens un petit peu sur votre sujet, je pense et je parle des associations, que l'on aide justement à accompagner ces jeunes et à les remettre d'abord là où ils doivent être, c'est-à-dire sur le chemin de l'école.
Oui, c'est ça. Et dans ce cadre-là, il y a aussi la lutte contre la violence, ça passe aussi par l'école, à l'école et devant l'école.
Oui, alors je vois à quoi vous faites
référence. Bien sûr,
référence,
oui, notamment ce qui s'est passé de l'agression de Reims.
Qui a été agressée. D'abord, vous dire que moi j'ai été horrifiée en voyant ces images. Je suis mère de famille, j'ai des filles, je suis une femme, donc j'ai été particulièrement choquée. Encore une fois, ces phénomènes de violence, ils existent, je ne les minore pas et je ne suis pas aveugle sur ces questions-là. Il y a un plan violence qui a été déployé à l'école. Ça passe par le rappel et le respect de ces valeurs, ça passe par de l'encadrement. D'ailleurs, dans le cadre de cette agression, il y a une cellule psychologique, il faut le dire, qui est mise en place au sein de l'école. Et puis, ça s'est passé hors les murs, mais pour autant, on est concerné.
Ouais.
Et je vous dis, typiquement, voilà quelque chose dont on va se saisir. Ce sont ces cités éducatives qui mettent en place tous les acteurs autour du gamin, autour de l'enfant, pour qu'il soit pris en charge dans l'école, hors l'école, jusqu'à la maison.
Et responsabiliser les parents. Responsabiliser les parents.
Oui, il faut responsabiliser les familles, parce que l'éducation, elle se co-construit entre la famille et l'école.
Supprimer les aides sociales, s'il le faut.
Oula, je n'irai pas sur ce terrain-là. Je ne dirais pas qu'il faut supprimer les aides sociales.
Non, mais c'est la question que pose
la question pourrait être posée. Moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. Ce que je dis, c'est qu'il faut d'abord responsabiliser les familles et qu'il faut parler aux familles et garder le contact avec les familles. Ça s'est très bien fait pendant la période de confinement. Vous savez, il faut aussi rappeler ce qui a été positif pendant toute cette période-là. On a repris contact avec les familles. Il faut le maintenir et puis les ramener dans l'école. Mais ils sont volontaires, finalement, les parents.
Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Cécile.
Bah justement, transition toute trouvée, puisque cette violence, elle est sur les réseaux sociaux, forcément. La haine, du porno, de la violence qui est diffusée. Quand est-ce que l'école va mettre en place, pendant les cours, des cellules, par exemple, d'éducation aux médias et à l'information et aux réseaux sociaux?
Alors déjà, Jean-Michel Blanquer avait pris une mesure qui est très pertinente, qui est celle d'interdire les portables à l'école et notamment au collège. Donc déjà,
mais
l'utilisation
ça
des téléphones n'est plus... Enfin, les jeunes n'ont plus accès à leur téléphone pendant la classe.
Parce que là, il est un peu tard quand même. Il serait peut-être temps de s'en occuper.
Alors, il est temps de s'en occuper. On voit bien d'ailleurs avec cette agression à quelle vitesse ça a circulé. Il faut quand même rappeler que tout ça est interdit. Qu'il y a des textes déjà, qu'il y a des lois, donc il faut déjà les faire appliquer. Et puis il faut sensibiliser les jeunes sur l'utilisation parfois néfaste des réseaux sociaux et combien ça peut être violent. Il y a du harcèlement.
Mais est-ce qu'il ne faut pas le faire pendant les cours à l'école depuis le plus jeune âge, vraiment, avec des vrais cours pour expliquer aux jeunes ce que c'est que, pour expliquer les contextes justement de tout ça?
Alors c'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est peut-être pas généralisé, mais c'est déjà fait. Il y a déjà des professeurs qui se sont saisis et emparés de ce sujet et qui vont en ce sens.
Je suis pas sûre que les professeurs soient aguerris aux réseaux sociaux. Je suis pas sûre que...
Je suis d'accord avec vous. Tous les professeurs ne le sont pas. Voilà.
Merci Nathalie Elimas, secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire, était l'invitée ce matin de Sud Radio.
Restez avec nous, 7h59.